antisémite. Voilà.
Alors, on est live, tu vois, et donc on part sur une déclaration de voir.
Ah bah là, c'est sûr, on va buzzer. Hein.
C'est, on va buzzer, exactement, nous dit la petite dame avec la perruque blanche qui mange ses poils en plastique.
Et donc, Père Noël.
Bon,
buzzer.
Oh,
bienvenue ce soir.
Vous avez été gentil, les enfants.
Deuxième numéro, je ne sais plus combien, 27, je crois, 27. On s'approche des fêtes, d'où alors pour ceux qui nous voient, nos tenues. Alors, on commence par Anthony, qui s'est déguisé en...
rouge comme le Père Noël.
Voilà, il a un petit peu de rouge. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Eh bien, on a... Je ne suis pas sûr de bien savoir ce que c'est, mais on a Miché, je crois, qui est déguisé. Alors, soit en sorcière, mais c'était Halloween, rien à voir. Ah non, mais non, il a une barbe, tout à fait, on a reconnu sur le gros Père Noël. Et le Jérôme, un petit classique, un classique de Père Noël avec un petit chapeau rouge.
Voilà, très gêné après cette perruque de Miché, mais sinon, voilà.
Tu peux nous faire un petit ho 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 quand même, oui.
Ho ho ho.
Ouais, voilà. Et un ho 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 avec un.
Double croche noir. Ho ho ho.
Et en brésilien, ça donne quoi?
The host du Brésil, host du Brésil, host du Brésil.
On termine par un Anthony Monté qui va nous faire un ho ho de qualité, d'égualité. Oh, et voilà, complètement big fail parce qu'il est en mute. Yes, man.
Oh, oh, oh.
Et voilà, on comprend pourquoi il a choisi de faire du cloud plutôt qu'en flanker.
En la dièse.
En tout cas, je commence par vous dire que si il fait très froid, moi j'ai une chaudière qui ne marche pas. Et ça me permet de faire le tour des températures parce que c'est super important et on est tous là. Pour savoir combien il fait au Brésil, par exemple. Combien il fait au Brésil?
Environ 33-35.
33-35, donc toi tu parleras en dernier. Anthony. Anthony
encore
est au mute.
Encore un mute.
Ouais, ça va être chaud. Hein.
11 degrés dehors.
11 degrés au Portugal. Je crois, c'est hein,
vrai. Portugal, tu vois.
Et en Suisse, tu es.
À 13 aujourd'hui à peu près.
13 degrés. Bon, ben je vous bats, moi je suis...
Ouais, ouais, mais attends, triche pas. La nuit, là, en ce moment, il fait combien?
Il fait pas 13.
Ah, voilà, ouais, d'accord. Chez moi, la journée, il fait 20 degrés. Voilà.
Et oui, et tu fais bien préciser, alors c'est un tech jam qui se déroule... Ah, il est en mute. Ah non, non, il est plus en mute. Qui se déroule la nuit, donc un horaire... la nuit...
Inhabituel.
Ouais, rite habituel imposé par sa princesse.
Princesse helvétique.
La princesse helvétique qui, excusez-moi, je travaille donc je ne peux pas accorder plus de temps. Voilà. Il faut qu'on se mette au diapason. Et mais c'est pas grave hein, parce qu'on l'adore. Et puis de toute façon, la semaine dernière, il y a deux semaines, si vous vous rappelez bien, il avait un petit moral et c'est pour ça qu'on lui passe un petit peu tout maintenant. Hein. Et là, ça va mieux. Enfin, on se comprend. Moi, je suis prêt en plastique. Quoi. Bon, voilà, pour une intro un petit peu longue et qui part sur du n'importe quoi, je vais vous donner quand même le menu de ce Tech Jam parce qu'il ne faut pas oublier que le Tech Jam, c'est de la tech. Et c'est de la tech avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Anthony Monté, du Portugal, qui va nous parler cloud et plus précisément
de Overture et de EC2.
À tes souhaits, Jérôme Blin, qui est Monsieur Productivity, qui va nous parler de, à l'approche de ses fêtes, c'est super important.
Comment que c'est qu'on fait pour se libérer du temps pour ses proches et pour ses copains?
Voilà. Pour apprendre à parler.
Voilà. Donc, bien compris.
Bien du Nord, hein, je le dis, au cas où.
Oui, voilà, c'est un Brésilien. Ch'ti. Et ça, rien que pour ça, si vous voulez, c'est un petit peu notre quota à nous. Quoi. Voilà. On termine par le sujet de Miché dans la catégorie DevOps. Hein, parce que toi, on va jouer aux cartes, me semble-t-il.
C'est ça. On va jouer aux cartes et on va menacer des diagrammes.
J'ai cru que tu allais t'arrêter à « c'est ça ».
C'est ça.
C'est ça. Alors, tiens, c'est toi qui commence. Tu nous parles plus précisément de... Ouais.
Ah, comme ça, je vais pouvoir enlever ma perruque. Oh, oh, oh. Avez-vous été sages, les enfants? Oui.
Et oui.
Ah. J'ai été une vilaine fille.
Super. Bon, donc, on va jouer aux cartes. Parce que c'est un peu un jeu, c'est Noël, il y a des jeux, c'est bien. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, alors pour la petite anecdote, j'avais déjà fait un article sur l'Imaoui il y a 2 ans, là-dessus, et c'est un jeu qui permet de faire du modèle de menace. Donc quand on... Alors attendez, juste première étape.
Je déshabille, pour les auditeurs.
Je ne peux pas du tout, Michel.
Ah putain, pardon, excusez-moi. Donc, première étape, c'est quand on fait de la sécurité et qu'on essaye d'évaluer la sécurité d'un système, on fait ce qu'on appelle du threat modeling, du modèle de menace. L'idée du modèle de menace, c'est quand on a un système, c'est d'évaluer quels sont les risques associés à ce système, et donc les éléments qu'on doit défendre, qu'on doit sécuriser, etc. Et il y a plein de techniques pour faire du modèle de menace. Il y a des techniques, par exemple, la Fondation Mozilla a ses propres techniques, OWASP a ses propres techniques, etc. Et un gars de chez Microsoft, il y a quelques années, a développé sa technique à lui, basée sur Stride. Alors Stride, c'est l'outil de sélection de classification de menaces par Microsoft. Et il a développé un jeu de cartes. L'idée, c'est qu'avec ce jeu de cartes, on peut évaluer de façon ludique, en équipe, les menaces qui reposent sur un système. Donc, sans plus attendre, je vais switcher ma scène. Je suis un vrai Twitcher. Et donc, sans plus attendre, voici donc l'article que j'ai fait il y a 2 ans sur l'Imaoui, mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous présenter ce que c'est.
Un petit peu de pub
au passage, oui. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a même une vidéo associée, une petite story, les règles et tout ça. Bon, bref. L'idée de ce jeu, donc le gars de chez Microsoft s'appelle Adam Shostak, et l'idée de ce jeu, c'est que vous classez vos menaces suivant 7 suites de cartes, et le jeu se joue un peu sur les règles du tarot. Vous avez votre diagramme d'architecture, votre diagramme de flux, votre diagramme de classe, ce que vous voulez évaluer, sur la table, au milieu de l'équipe. Et le jeu de cartes est réparti entre tous les joueurs. Et le premier joueur, c'est celui qui a le... Alors, si je me souviens bien de la règle, c'est le 3 de... le 3 de tempering. Donc, celui qui a le 3 de tempering... Alors, je vais expliquer après tempering, spoofing, ce que c'est. Celui qui a le 3 de tempering essaye de poser la carte s'il repère une attaque par tempering sur le diagramme que vous avez devant les yeux.
Alors, je me mets en l'air.
Oui.
Je me demande si t'es pas allé trop vite. Jérôme Blanc, on l'a perdu. Un classique. Ça, c'est un classique. Mais là où je commence à frémir, c'est quand je vois Anthony monter et des sourcils, tu vois, te souvenir.
Bon, alors je recommence. Première étape, quand on cherche à déterminer si un système est sécurisé, c'est de faire du threat modeling, du modèle de menace. En gros, oui. C'est de modéliser les faiblesses du système, les menaces qui pèsent dessus. Il y a différents moyens de faire ça.
La menace comme ça ou la menace...
tu veux que je qualifie ce qui est une menace? Alors,
oui,
la façon...
c'est génial, je pense. Oui.
Ah oui, la façon d'attaquer un système. Les différentes failles de sécurité, les vulnérabilités qui sont associées à ce système. Donc en fait, tout ce qui est susceptible de modifier de façon non voulue le comportement du système. Et suivant les organisations, les entreprises, plusieurs entreprises ont développé des systèmes de classification de ces menaces. Et il y a par exemple Stride de chez Microsoft, que vous pouvez voir ceux qui sont qui n'ont pas le podcast, mais qui ont la vidéo YouTube, qui a classé par exemple les différentes menaces en spoofing, tempering, repudiation, information disclosure, denial of service et elevation of privilege, que j'expliquerai plus tard. Il y en a d'autres, ouais. Par exemple OWASP à la classification cornucopia, qui est une autre classification. Mmh. Et c'est des façons de classer les différentes menaces.
Oui, non, mais est-ce que sur la dernière menace, je suis pas tout à fait. Enfin, c'est pour peut-être indigeste pour Noël. Donc moi, je recommande pas. Ou alors vraiment faire une chose au beurre, un truc un peu plus. Bon, ouais. Après, chacun l'entend comme le voudra. Par contre, j'ai une vraie question. Une vraie question curieuse. À quel moment on a envie de se dire, tiens, dans une boîte normalement constituée, tiens, on va jouer aux cartes pour essayer d'évaluer notre menace ou notre...
Alors, j'y arrive. On est dans une démarche DevOps, on cherche à casser les silos et à faire en sorte que le savoir se partage entre tous les membres d'une équipe, voire même au sein de l'organisation. Donc, ce que je vous présente, c'est les outils qui pourraient permettre de faire ça.
Ok.
Comme on peut le voir, le modèle de menace, ce n'est pas à la portée de tout le monde de comprendre ça, du moins du premier coup. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des outils qui permettent de partager le savoir et de faire en sorte que petit à petit, au fur et à mesure que les gens jouent avec ces outils, ils comprennent mieux les risques, les vulnérabilités associées à un système.
Et donc, Elevation... Excuse-moi, genre pour sensibiliser au final les gens à la sécurité.
Pour sensibiliser, mais aussi pour renforcer la sécurité des systèmes. Parce que... Dans des équipes, on a des gens qui connaissent un peu en sécurité. Dans le monde DevOps, on essaye de les intégrer dans les équipes de développement, les équipes produits, les équipes Streamline Teams, si vous vous rappelez la team topologie. Oui. Mais le reste de l'équipe, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose en termes de sécurité. Mais pour autant, il faut quand même qu'ils puissent savoir à peu près ce qu'ils font pour éviter de casser un système et de rendre insécure un système. Et donc, Elevation of Privilege est un de ces outils qui permet de partager le savoir du type qui s'y connaît un peu en sécurité avec ceux qui n'y connaissent rien, pour de faire en sorte que ce soit toute l'équipe qui, ensemble, améliore la sécurité du système qu'ils ont en charge.
Et ça, concrètement, c'est un jeu auquel, dans une boîte, on va dire, tous les mois ou toutes les deux semaines, on fait une passe dessus
Alors, ça dépend de votre framework de développement, mais par exemple, si vous utilisez Scrum, ça peut faire partie de la review. Ça peut être une étape de la review.
Ah, ok.
Avec l'autre framework dont je vous avais parlé, qui est Framing and Building Shape Up, voilà, qui est Shape Up. Ça peut être partie aussi d'un certain nombre d'étapes au sein de la partie Shape et puis au sein de la partie Building Up, qui puisse être envoyée après la partie Shape.
D'accord.
Donc l'idée là, c'est qu'on ait un jeu de cartes qui se base en fait, basiquement, c'est les règles du tarot. Pas du tarot divinatoire, hein, du tarot qui se joue dans les clubs bourgeois avec les cigares à la bouche, etc. Vous avez donc...
Je sais pas si... Ça va être un truc à Zurich, mais...
On joue au Kemps, on joue à Bloc.
Pardon.
À la bataille, à la rigueur. Et encore, ça va être avec du Fanta, quoi.
Petite bataille, à la rigueur.
Au secours. Donc, l'idée, c'est que vous avez des familles, des suites. Donc, dans le cas, si on prend le modèle de Microsoft, c'est Stride. Donc, vous avez spoofing, tempering, etc. Et l'idée, c'est que chacun... On distribue le jeu complètement entre tous les joueurs. Mmh. Et on détermine le premier qui joue, c'est celui qui a le 3 de tempering. Tempering, c'est une des suites. Donc, tempering, en gros, c'est une menace qui consisterait à modifier des données ou du code de façon non autorisée.
Ouais.
Louis-Jérôme, je te vois... Non, t'as pas de question.
Non, pas de question, j'essaie de suivre religieusement.
Donc, cette personne a le 3 de tempering et qu'il trouve une faille qui y correspond, il pose la carte. Sinon, l'idée, c'est qu'on surenchérit. Donc, on commence avec la suite de tempering. Ceux qui ont des cartes tempering et qui trouvent une faille tempering...
Alors, attends, hop.
Oui.
Hold your thought. Ça veut dire quoi? Il trouve une faille tempering. Il va aller dans le code, là, tout de suite, il va essayer de faire...
Mais c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des modèles qu'on présente sur la table entre les joueurs. Donc, les diagrammes dont j'ai parlé au début, les diagrammes de flux, les diagrammes de classe, les diagrammes d'infrastructure, etc. Quelque chose que les joueurs puissent évaluer plus ou moins rapidement.
D'accord, donc on vient avec une théorie, enfin avec une hypothèse. Tiens, là, je sens...
Avec une hypothèse, ou alors déjà le diagramme d'un système existant. Si on est dans un principe itératif, comme c'est à chaque review, on peut sortir la doc du code précédent, sous forme de diagramme, sous forme de flux, etc., la mettre sur la table, les gens regardent un peu ce qu'il y a, et puis commencent à réfléchir, en fonction de leur jeu de cartes, quelles attaques ils pourraient trouver.
Oui, mais c'est là où je dis qu'il y a une hypothèse, c'est que tu peux pas, même avec un diagramme, etc., tu vas pas dire... Ah, là, je sais qu'il y a un risque de tempering.
Ah non, mais bien sûr. Là.
C'est une hypothèse. On se dit, tiens, vas-y.
C'est possible, ouais. Et ça se discute. L'idée, c'est que si tu considères qu'il y a une faille là, tu poses ta carte. Et tu dois expliquer à toute l'équipe qu'est-ce que c'est que cette faille que tu penses qu'elle est là. Et avec l'équipe, vous discutez, oui, elle est réellement là, elle n'est pas là. Et d'accord. Donc, si elle est là et que tout le monde considère qu'effectivement, il y a un risque là, tu gagnes des points. Et donc, ça continue comme ça. On surenchérit sur le tempering, vu qu'on commence avec le tempering. Et si on n'a pas de carte de tempering ou qu'on ne trouve pas de faille de tempering, on peut couper, comme au tarot, avec la elevation of privilege, la suite elevation of privilege, qui est parce que l'elevation of privilege c'est la suite de la vulnérabilité la plus dangereuse, c'est la menace la plus dangereuse. Donc si on trouve un elevation of privilege, on peut couper. Et donc en gros ça revient à expliquer où est cette elevation of privilege, en quoi ça consiste et tout, et on remporte le pli. Et si on n'a pas d'elevation of privilege et pas de tempering, on pisse comme au tarot, c'est-à-dire qu'on met une carte d'une autre suite. C'est vraiment la règle du tarot. D'accord. Et donc on continue comme ça son tour. Celui qui remporte le premier pli pose la carte qu'il veut, la suite qu'il veut, etc. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on fait quelques tours comme ça. Et l'idée c'est que on compte les points à la fin, bien sûr. Bon, ça c'est juste la partie gamification, mais la partie sérieuse entre guillemets, c'est que avec ce système de jeu, on a trouvé des failles, on a trouvé des menaces, on a trouvé des vulnérabilités sur le système. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure d'itération, au fur et à mesure que le savoir se partage, parce que celui qui trouve les failles, devant l'expliquer, étant donné qu'il y a une discussion avec celui qui trouve les failles, après, les gens commencent à comprendre quelles sont ces failles, etc., eh bien, on renforce notre système. Ou au moins, on décrit de mieux en mieux son modèle de menace. Après, pour le renforcer, c'est une autre étape. On n'est qu'au début de toute la démarche DevSecOps, parce qu'on est en plein démarche DevSecOps, même si je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme. On est au tout début de la démarche DevSecOps. On a défini nos modèles de menace. Après, il faut pouvoir les tester et y remédier. Mais ça viendra après. Donc, vous avez ce jeu, Elevation of Privilege, qui est basé à l'origine sur Stride. Stride, c'est la méthode de classification de menaces de Microsoft. Mais il y a plein de petits dérivés, de petites modifications du jeu. Il y en a une qui a été faite par OWASP sur son modèle de classification à lui, qui est Cornucopia. Et il y a, bien sûr, donc vous voyez les cartes. Pour ceux qui sont sur le podcast, je suis désolé, vous ne voyez pas la carte. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez les cartes, les jolies couleurs et tout. Et bien sûr, il y a des outils en ligne pour pouvoir y jouer.
Ah.
Voilà. On va pas y jouer maintenant, mais il y a des outils en ligne. Il y en a même qui ont du code open source.
Mais tu vois,
vous pouvez installer votre serveur.
On peut l'acheter à Toys R Us ou à Leclerc.
Alors, vous pouvez pas l'acheter à Toys R Us ou à Leclerc, mais vous pouvez acheter le paquet de cartes. Par exemple, c'est Agile Stationery qui vend le paquet de cartes. Donc, vous pouvez acheter les cartes physiques si vous voulez.
Là, tu veux vraiment pourrir le Noël de tout un chacun.
Alors, j'ai ramené l'Evasion of Privilege parce que bon, j'ai un petit souci à la maison.
Et là, tu vois, tonton Jaco qui dit ah ouais, mais attends, là, franchement, j'ai l'impression que.
Oh, ben moi, il s'use.
Non, mais là, vous avez les prêts suisses, donc c'est 32 francs pour le pack complet, 7 francs pour juste les cartes, etc. Mais vous pouvez acheter effectivement vos paquets de cartes si vous voulez, quoi. Et vous avez même des apps Android, une app Android pour le faire. Et j'ai même vu un jeu Steam, Elevation of Privilege. Sur D'accord. Steam, vous avez un Elevation of Privilege. Donc, voilà, vous pouvez y jouer avec plein de moyens différents. Et c'est pas mal cool, c'est de Noël, c'est de saison. Et si vous voulez débuter dans votre démarche DevSecOps, je vous conseille de commencer par ça.
Est-ce que dans ton expérience DevSecOps, qui est longue, qui est touffue, tu as pu pratiquer ce genre de...
Oui, un petit peu. Ça dépend des équipes. Avec certaines équipes, j'ai pu, avec d'autres, pas vraiment. Parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut que les équipes aient envie de jouer. Que ça soit dans la culture des gens de l'équipe, le jeu de cartes est suivant, par exemple, l'origine des gens. Il y a des pays où on ne joue pas aux cartes, donc c'est un peu compliqué. Il y a tout un apprentissage avant et il faut que ça soit intéressant pour eux. Mais avec certaines équipes, j'ai réussi, oui, à débuter au moins. avec ce jeu le modèle de menace, parce que c'est un bon moyen d'entrer sur le modèle de menace. Oui, Jérôme, qu'y a-t-il? Pardon, Anthony, qu'y a-t-il? Je vois Anthony rigoler.
Non, c'est Sébastien qui a l'air marrant. Ah. J'avais une question, moi, c'était le contexte d'utilisation, c'est quand même une équipe technique, des développeurs, des DevOps, des Ops, où tu peux te dire, on va mettre ça en place pour ma petite boîte de 30 employés avec une comptable, un ceci, un cela.
Non,
et
il faut...
peut-être que ça peut servir à réfléchir en termes de sécurité, parce que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde, bien sûr.
Et, oui, bien sûr.
ne serait-ce que la responsabilité d'avoir un badge, ça peut être une menace pour de l'intrusion et pour de l'escalation de privilèges. Donc peut-être, je me dis, un jeu de cartes, on fait une bataille plutôt qu'un tarot.
Alors, pour très là, je viens. Ça dépend de la suite que tu utilises. Stride, c'est pas vraiment accessible à ceux qui n'ont pas de compétences techniques dans le domaine. Mais il y a d'autres suites qui sont plus accessibles. Il y a des extensions, par exemple, sur Elevation of Privilege, il y a deux extensions qui sont sorties que j'aime bien, qui sont sur la privacy, la vie privée, qui elles sont plus accessibles et qui sont qui ouvrent plus largement aux équipes legals, c'est-à-dire les équipes juridiques, etc. Ouais. Et après, c'est à vous aussi d'étendre votre suite, si vous voulez, avec les suites de menaces que vous considérez judicieuses pour votre environnement. Cornucopia, ouais. Par exemple, lui, est plus adapté au site web. Cornucopia est plus adapté au monde du web. Stride est normalement plus système. Hein. C'est une suite de chez Microsoft. C'est normalement un peu plus système. Mais les règles du jeu sont normalement en 2-3 plis. En 2-3 plis, les règles du jeu sont acquises par... par l'équipe.
Je ne connais pas.
acceptation du management, c'est un truc qui... faire jouer aux cartes pendant le travail, c'est bon, ça passe. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as des équipes agiles, déjà, je pense qu'ils ont fait un grand pas. Et
oui.
Le plus gros a été vendu. Mmh. Après, ça passe tout seul, quoi. Ça passe crème, comme on dit. Enfin,
disons que déjà, c'est un jeu où effectivement la structure d'équipe, la topologie, est un peu plus agile parce qu'effectivement, il faut intégrer des gens du monde de la sécurité dans l'équipe. Faut pas un silo à part de la sécurité parce qu'il faut que des gens s'y connaissent un peu pour pouvoir au moins débuter dans le jeu. Parce que ça sert à rien, si on est tous des nique-douilles en sécurité, ça sert à rien de poser des cartes dont on connaît pas la signification, tu vois. Donc il faut commencer avec des gens qui s'y connaissent un peu, qui posent les cartes judicieusement, correctement, et qui sont capables d'expliquer pour que le savoir commence à percoler, à se partager dans l'ensemble de l'équipe. Mais au fur et à mesure, normalement, l'ensemble de l'équipe est capable de petit à petit prendre en main le jeu, ouais.
Est-ce que c'est efficace, c'est largement adopté, ou c'est vraiment un truc anecdotique très spécifique, on va dire?
Alors, c'est efficace pour les entreprises qui l'ont adopté. Largement adopté, pas vraiment, non. C'est adopté dans les grandes boîtes tech, suivant les équipes, mais c'est pas très largement adopté, non. Mais ça se diffuse petit à petit. Il y a des forks qui apparaissent tous les jours, il y a des modifications qui apparaissent tous les jours. Mais le monde de la sécurité est encore un monde assez siloté dans l'esprit de beaucoup, dans le mindset de beaucoup d'entreprises. Et, or, ce jeu est l'inverse de ça. C'est un jeu qui casse les silos parce qu'on intègre des gens de l'équipe sécurité dans l'ensemble des équipes.
On peut dire que le jeu est open source ou pas ?
Le jeu est open source. Ouais, il est Creative Commons. La règle est Creative Commons et même les images que vous voyez là sont Creative Commons. Donc oui, vous pouvez les forquer comme vous voulez et réutiliser, mettre vos images, etc. C'est un Creative Commons, je ne sais plus si c'est un 2. Attendez, je vais vous dire ça.
Bon, ça
c'est sur le site de Showstack, normalement. Bon, je ne sais plus quelle est la licence spécifique, mais c'est Creative Commons, ouais.
Ok. Ouais. Ben, merci de nous avoir fait découvrir ce jeu pour... on va tous, je pense, le commander pour l'avoir au pied du sapin.
Je vais l'offrir à mon pire ennemi.
C'est pas du tout ce que je pensais, évidemment. Merci beaucoup. Et de toute façon, voilà, enfin, dès qu'on veut avoir des trucs, des sujets un petit peu avant-gardistes, parce qu'on a compris que c'était pas adopté partout. On demande à Michel. Michel, il arrive, bam, regarde, t'as pas ton jeu de cartes. Bam, voilà, tranquille. Meilleur que la sécurité, c'est facile. Et ton jeu de cartes. Allez, on fait monter qui.
J'ai une dernière question.
Non.
Si, non, mais rapidement, c'est quelqu'un voit plus de 16 pixels sur l'écran de Michel ou c'est moi?
Alors, il n'y en a pas beaucoup.
Pardon? Il y a un souci sur mon écran?
Zurich. Mais moi, je suis en intervenant avec une meilleure caméra, dis donc.
Je sais pas, non.
Je le vois très bien, moi.
C'est relativement bien, c'est bien.
Oui, oui. C'est toi. C'est effectivement toi, Anthony.
J'avoue. Tu sais, au Portugal, ils ont un petit générateur, là, et puis un modem 56K. Oui.
Parce que j'ai le retour sur mon autre ordi et ça passe nickel. Hein, ça passe
très bien. T'es beau.
Je suis beau. Mais ça, qui en doute encore.
Allez, on switch à un autre beau brésilien. Toi, tu vas nous expliquer comment qu'on fait pour être bien, tout ça, détendu, et avoir un peu plus de temps pour sa famille encore. Ah.
Comment c'est qu'on fait?
Comment pas, pardon. Mais je débute dans le ch'ti.
Voilà. Donc, vous connaissez un peu mon sérieux, vous commencez à le connaître à travers le monde entier. Je travaille beaucoup et je lis beaucoup. Donc, je me suis attelé à la tâche, nouvelle expression que j'ai apprise la semaine dernière. Et j'ai lu le livre de deux gars de chez Google qui s'appelle La méthode Make Time. Il y a un mec de Gmail et un mec de YouTube. Et donc, ils ont créé un premier livre, apparemment, qui a eu un succès international que je n'ai même pas lu, qui s'appelle Sprint. Ça doit être lié au développement, je suppose. Et voilà.
Tout ce qui est course à pied, évidemment, c'est moi.
Quand tu cours vite, là.
Voilà. Et, je vois ce que tu veux dire.
et donc, le deuxième, à mon avis, c'est un gros best-seller, puisqu'il y en a pas mal qui en parlent. Il s'appelle la méthode Make Time. C'est vraiment une méthode empirique, il y a des trucs de science, des trucs comme ça, mais moi je la trouve vachement intéressante et c'est peut-être, je crois, le meilleur livre à ce sujet que j'ai lu depuis une semaine facile.
Si je peux me permettre, comme souvent avec les méthodes que tu mets en avant, elles ont toujours un petit nom bien recherché, tu vois. Les mecs, ils sont dit, voilà.
Elles sont creusées.
Ah, ça fait gagner du temps. Oh, Make Time, peut-être, éventuellement. Ah ouais, un génie. Allez, vas-y, on va en faire des millions.
Non, parce que ça s'adresse aux gens comme moi, donc il faut un truc et il faut que je puisse retenir facile.
Ok.
Donc, en fait, l'idée, et pourquoi je le mets en relation par rapport aux Noël, vacances de Noël, repos, et censé être du repos, etc., c'est que eux, leur objectif de la productivité, il est différent de celui dont qu'on peut penser en premier lieu, c'est-à-dire être productif, travailler plus. Généralement, et c'est le piège dans lequel je suis tombé, c'est qu'on veut être plus productif pour se dégager du temps, mais en fait, ce temps qu'on s'est dégagé, on l'utilise pour travailler encore plus. Donc en fait, on se crame. C'est le gros piège.
Burn-out, et puis on n'en sort pas, quoi.
Wow. Burnout, Need for Speed, etc. etc.
Ah, il m'a fait chaud, j'allais la faire, putain.
Et donc, voilà. Donc, la méthode, en fait, elle est simple. C'est 87 conseils. Je ne vais pas tous les faire, forcément. J'en ai sélectionné ceux qui m'ont le plus parlé.
Mais 87, et quand même, ils ont bossé, quoi. Hein. Tu te dis, ils vont peut-être faire des millions, peut-être. Mais il y a quand même 87 sujets, quoi. Thèmes.
Le livre se lit très vite. Donc c'est des petits tips qu'ils ont pompés ça et là et qu'ils ont regroupés. Ils sont malins. De toute façon, on n'invente rien, de toute façon, en général. Hein. Donc ils ont chopé à Cole Newport, Tim Ferriss, comment ça s'appelle, David Allen, la GTD, tout ça. Donc ils ont regroupé et puis ils s'en sont mis plein les poches.
Ils ont fait format carambar, quoi, la blagounette, et puis hop, tu dérides et hop.
Tu crois pas si bien dire parce qu'ils ont même fait des dessins, tout ça, un peu vraiment enfantin pour que ce soit le plus simple possible.
D'accord, ok. Alors, vraiment, ça me donne envie de savoir, mais que quoi qu'il faut faire pour dégager du temps et
Bah, je vais te le dire.
Eh ben, merci.
La méthode, elle s'axe autour de quatre piliers qu'on répète quotidiennement. C'est pas un truc... Eux, ils sont contre les trucs genre Miracle Morning, là, tu sais, tu dois te réveiller à 5 heures, tu dois faire ta méditation, ton journal, courir un marathon, tu prends une douche froide, et puis ensuite, tu dois méditer sur le pied d'une montagne chinoise. Non, il n'y a pas de ça. et donc, tu dois... y aller cool, en fait. L'idée, c'est d'y aller cool. Faut pas se mettre la pression à se mettre... Tiens, il faut que je fasse 36 000, ça, faut que je fasse... Il faut éviter, il faut que je fasse.
Non, mais ils ont l'air géniaux, quand même. Ils font une méthode qui s'appelle Make Time, ouais. et surtout un truc basique, quoi. Un truc
non, ce qu'ils disent, c'est que dans les 87, il y en a forcément qui vont pas convenir à tout le monde, tu vois, dans
les 87 titres. Ah oui, par contre, mais donc, ils ont tout mis. Bon, bref, excuse-moi, je suis méchant.
C'est les mecs de chez Google, ils ont la vérité.
Alors, sur les 87, c'est lesquels les plus... Il y en a combien qui t'ont interloqué?
Alors déjà, je dis juste en préambule, ça s'axe autour de quatre piliers. Les highlights, donc on a une tâche quotidienne, c'est de la priorisation, comme j'ai répété un milliard de fois. La tâche principale, mais ce n'est pas nécessairement une tâche liée au travail. Ça peut être une tâche par rapport à son bien-être personnel, à sa vie personnelle. Et cette tâche, en fait, on va la définir soit la veille, soit le matin, classiquement. C'est son objectif principal. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les tips laser qui vont aider à la progression de ce highlight. C'est laser de concentration et en gros, on va essayer de chasser les distractions, plus ou moins. Ensuite, il y a une rubrique Energize, où là, on recharge les batteries, et une rubrique Reflect, où là, on va réflecter sur sa journée. Réflexionner, pardon.
D'accord, bah jusque-là, c'est bon, ok, d'accord.
Voilà, donc les highlights, j'en ai parlé pas mal, mais en gros, on les détermine. L'idée, c'est de déterminer son highlight, sa mission principale journalière selon trois critères. On en choisit un des trois. Soit l'urgence,
oui.
Donc forcément, une mission pour un client, il faut se dépêcher. Ben, on va essayer de le faire le plus facilement et rapidement possible. Ça peut être la satisfaction, tu vois, passer un moment avec ses enfants. Là, je coupe complètement avec le boulot parce que l'idée, c'est Noël, c'est Christmas, family and happiness. Et puis la joie. Je ne sais pas pourquoi ils ont scindé joie et satisfaction, mais intrinsèquement lié.
Oui, j'imagine bien. Ah, tiens, on va rajouter quoi? Bon, je sais pas, t'es quoi, toi? Joie? Ok, vas-y, joie, c'est bien.
Ben parce que pour une liste à puces, c'est pas ouf, deux. Donc, ils ont mis trois. Voilà. Donc,
l'idée... Tu l'as acheté, le livre, du coup? Tu l'as acheté?
Je l'ai acheté, ouais, 150 euros. Je me suis pas fait avoir, hein. Je suis pas une victime.
D'accord.
Et donc, voilà. Donc, il y a... Moi, j'en ai chopé trois, mais en fait, il y a une méthode, on va dire, dans les highlights de planification de tâches, très simple et sur du papier. Il n'y a pas besoin d'utiliser un logiciel ou quoi que ce soit. Il reprend un peu le principe d'une gazinière où tu as ton feu avant, c'est la priorité, c'est ton highlight. Ton feu arrière... Ah ouais, non mais là, il me casse la baraque. Je lui vois une solution miracle. Je fais mon camelot et ceci, je vois.
Oui, donc, oui, mais non, c'est que l'aspect gazinière, ça m'a perturbé. Moi, j'ai eu une enfance où.
Ah non, mais c'est vraiment. C'est des designers, ils ont du dessin, ils ont le dessin dans la peau. Moi, ça me parle. Moi, je suis pas un visionnaire, mais je suis un visuel.
Ouais, ouais.
Donc, en gros, c'est. Bon, je vais la résumer à la substantifique moelle, comme dirait. Jean-Claude de Montaigne,
ouais.
C'est que toutes les tâches qu'on a à faire ne doivent pas dépasser celles d'une feuille. Si ça dépasse ce que tu as sur une feuille, c'est que tu en as trop. Donc il faut éliminer, il faut tout enlever.
Ouais, ça, c'est une tâche qui dépasse une feuille, alors ça dépend, tu parles d'une feuille de A4
Non, plutôt un panneau, un panneau de pub.
A4, on peut déjà mettre beaucoup de tâches aussi.
Ouais, après, ça dépend de l'écriture, forcément, mais l'idée, c'est ça. Sur ma to-do list, moi, j'ai environ 200 à 300 tâches. J'en ai beaucoup trop, il faut que je fasse le tri, d'ailleurs. Mais ouais. Je ne vais pas en mettre 200 ou 300. À mon avis, c'est une trentaine, quoi. En gros, c'est ça. Deuxième tips, savoir dire non, apprendre à dire non.
Donc, dire non, ce qu'ils expliquent, c'est dire non, ça n'interdit pas de dire oui à l'avenir, en gros. C'est ça.
Oui.
Ah ouais, non, mais en Belgique, on dit oui.
Ah non, ils disent oui, justement. Ils disent oui.
Ah ouais, ah d'accord, oui. Parce que moi. Ok.
Alors, comme, pas... comme chez toi, du coup. Comme,
hein?
Oui.
Oui.
Et 8, ils disent 8. C'est quand même un peu.
Voilà. Et des oui, 8. Ah d'accord, ils disent oui, ok. Bon.
Un grand moment de podcast.
C'est.
Oui, à part ça, ils sont pas. Cool, hein. Faut pas dire qu'on est français. Parce que...
Ouais, okay, vas-y. Donc apprendre à dire non, planifier sa journée, bon ça je l'ai répété un millier de fois, mais c'est des basiques qui rappellent pour les gens, c'est vraiment adressé à tout le monde, hein, sans arrogance ou condescendance ou tout ça. Mais voilà. Là où c'est plus intéressant, c'est dans la méthode laser où on apprend à se focaliser pour se libérer du temps. Le tips numéro 1, c'est le téléphone zéro distraction. Notamment, enfin ils listent une méthode où... sur son téléphone, on devrait avoir rien qui concerne du contenu en illimité. Contenu illimité, et en plus d'ailleurs, ils ont développé YouTube hein, et Gmail. Donc, supprimer Gmail, YouTube, pas les podcasts, pas Spotify, pas les trucs de lecture, là, Kindle, les trucs comme ça. Par contre, supprimer certains réseaux sociaux, par exemple, je sais plus, attends, je reprends mes notes.
Mais supprimer, pourquoi supprimer ? C'est pas les notifications qui sont perturbantes ?
Ils en parlent après.
Ah, ok.
Le truc...
Sinon, on s'achète un vieux téléphone, machin. Et...
Bah, en fait, l'idée, c'est que eux, ils sont contre l'idée de se prendre un vieux 3310, on va dire un 3310, et garder le smartphone. Garder le smartphone pour, par exemple, des trucs comme Maps. Le mail, de temps en temps, ça peut être utile. Le podcast, ça peut être utile quand on fait de la course à pied, par exemple. La musique aussi, ce genre de trucs. Par contre, là où ce serait délétère, selon eux et leur méthode, pour rester focus sur son highlight, hein, le but, c'est de rester focus sur son travail, sur sa tâche. Ouais. Bah voilà, c'est les trucs dans lesquels on tombe en piège. Moi, typiquement, c'est YouTube. Y en a d'autres, par exemple, ma femme, c'est plutôt Instagram, etc.
D'accord.
Un autre tips, par exemple, tout bête, acheter une montre, tu vois, encore une fois. Au lieu de toujours débloquer son téléphone, eh ben, on regarde la montre.
Eh ouais.
Et pas une tu vois.
Ah, non, c'est une moitié de con, hein. Bah, ouais.
Voilà. Donc, supprimer les notifications, ça, je l'ai dit. Au réveil, par exemple, ben, plutôt se focaliser sur son highlight plutôt que d'aller directement sur son téléphone ou sur son ordinateur... via la messagerie, le mail, tout ça. Et puis, il y a un truc qui s'appelle, une rubrique qui s'appelle « Ranger les jouets ». En gros, c'est un peu comme les enfants. S'ils ont les jouets sous l'œil, ils vont peut-être avoir plus tendance à vouloir y toucher. Donc, tous nos jouets qu'on a, sur, par exemple, sur l'ordinateur, ça peut être pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, ben, ça va être peut-être retirer le raccourci, ne pas avoir les raccourcis sous les yeux, enlever les raccourcis qui distraient. Au maximum pour rester focus sur ce on veut se focaliser. Non, c'est pas français, mais on se comprend.
C'est pas mal, moi j'ai gagné.
Sur notre highlight. Et nice. Ensuite, donc là. Hein ?
Je disais nice, bien.
C'est des trucs qui paraissent basiques, mais en fait, dans le livre, ça c'est plutôt bien expliqué, je trouve. C'est pas nécessairement, comment dire, logique pour tout le monde. Tu vois, enfin moi je connais par exemple typiquement dans mon entourage, il y a des gens qui pensent peut-être pas à faire certaines choses, typiquement sur leur téléphone, supprimer ou décaler les icônes sur une autre page ou les apps sur une autre page, ce genre de truc. Je trouve pas ça déconnant. Voilà. Donc ça c'était pour le laser et ensuite pour le Energize, c'est tout ce qui va nous aider à avoir plus d'énergie pour être plus concentré, passer sa journée. Et l'objectif, c'est vraiment un objectif de bien-être. Il parle, par exemple, de pause caféinée, de sieste caféinée, en fait. La sieste caféinée, et apparemment, là, il y a eu des études scientifiques au Japon, outre-Pacifique.
Je parie, tu vas dire, il faut boire le café avant de faire sa petite sieste.
Bon, alors, c'est tout pour moi. Je ne sers à rien.
Juste avant. Il faut le faire juste avant parce que la caféine prend une trentaine de minutes à monter. Ouais. Moi, donc, 15... on se réveille, on va être au taquet.
Ouais. J'avais 15 minutes. Qu'est-ce que tu as, toi, Jérôme, en termes de...
Alors, dans le livre, ils disent qu'il faut se coucher 15 minutes après avoir pris le café. Sauf que moi, je le prendrais directement, la sieste.
Moi, je le prends directement, ouais. Ouais.
On a plutôt tendance à faire ça. Et donc, ils disent que les gens, enfin, selon leurs études, entre eux, les personnes qui prennent le café, les personnes qui font la sieste, sieste et café, forcément, c'est celles qui font sieste et café qui sont les plus efficaces en termes de focus, de niveau d'énergie et de cognition.
D'accord.
Voilà. Donc, pour l'hiver, ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de choses à faire. On est bien fatigué. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Enfin... Si, chez moi, il y en a beaucoup.
Sauf chez toi.
Mais voilà, moi, je suis plutôt adepte de la sieste. La sieste caféinée, je n'ai jamais testé parce qu'on dit souvent que... alors, il y a le piège de penser qu'un café, ça dure 4 heures dans le sang, 3-4 heures. Mais en fait, c'est une demi-durée de vie. Et un café, ça dure plutôt 8-10 heures, si je dis pas de bêtises, dans le sang. Donc, il faut faire gaffe à ne pas le prendre trop tard et pas prendre sa sieste, de ne pas faire sa sieste trop tard par rapport à ça. Mais c'est l'idée. Il pense aussi.
Mais le café, c'est dégueulasse, non ? Je dis ça comme ça. Voilà, tu veux continuer.
Alors, le café, je suis au Brésil, je ne peux pas, parce qu'il y a un lobby très puissant, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon, parce qu'il y a des grosses ventes qui se font à l'international. Par contre, ils disent aussi que le thé, ça peut être pas mal. parce que le thé, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. De la terre et donc voilà, le thé, moi je suis un adepte du thé, je suis un grand amateur de thé. Le problème, c'est qu'au Brésil, ils en vendent pas du thé de qualité. Le thé, ça apporte peut-être plus de caféine, mais ça apporte aussi une molécule qui permet de réguler l'effet de la caféine. Donc c'est pas mal, notamment pour les gens qui sont sensibles au café. D'accord. Ou à la caféine. Sinon il y a la guarana ou la cocaïne. Ah,
là tu es dans la partie energizer.
Energizer, ouais. Après, il y a d'autres trucs, par exemple, faire du sport, mais 20 minutes tous les jours et pas faire du sport, je sais pas, 2-3 heures par semaine. Plutôt faire des petites sessions de sport et pas des sessions de sport intenses, type HIIT, Tabata, tout ça, tout ça. Mais des sessions de sport tranquilles, genre une petite marche tranquille. Ouais. Ou bien une petite marche, ça peut être de la corde à sauter, du trampoline, ça, ils en parlent pas mal. Et l'idée, ouais, c'est de le faire régulièrement et quotidiennement. Et apparemment, là, encore une fois, ils apportent des études scientifiques. Après, moi, je te trouve une étude qui prouve le contraire de chaque étude, quasiment, parce que je suis habitué. Et l'idée, c'est que pour une intensité assez douce et régulière, très régulière, donc quotidiennement, c'est plus efficace que si tu te faisais une heure de sport par semaine.
Ouais, ouais. Il faut miser sur la régularité.
C'est ça. Il ne faut pas non plus, je ne sais plus comment ils emploient, quelle expression ils emploient, mais il ne faut pas non plus, faut pas se cramer, quoi. Il ne faut pas essayer d'aller au-delà de ses limites dans le modèle no pain, no gain, un truc comme ça. Il faut vraiment y aller à la cool pour son bien-être. Et puis, si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave, on a fait 5-10 minutes, ça va.
Ok.
Faire des vrais. Ou pas. Il y a encore deux petits trucs, j'ai rapidement méditer, faire des vraies pauses, mais ça, c'est des trucs que je répète assez régulièrement un peu partout, ça et là. Et à la fin de cette journée, l'idée, c'est d'analyser notre journée. Est-ce qu'on était plus productif en fonction de X tips et si ça ne marche pas, analyser, dire pourquoi. Et si ça ne marche vraiment, vraiment pas, bah, passer à un autre conseil, etc.
D'accord. Donc, c'était la méthode Make Time, c'est ça?
Ouais. Deux, je te répète les noms parce que ça, c'est Jake and Jay-Z. Alors, Jake Knapp comme la sieste.
Ouais.
Et John Zeratsky. Là, il n'y a pas de jeu de mots.
Comme Zeratsky, voilà. Le méchant dans un dessin animé. Eh ben merci beaucoup. Alors, je suis pas super convaincu, je sais pas ce que vous en pensez les autres sur cette méthode-là. J'ai quand même l'impression que si on s'était mis à nous quatre, on avait quand même pas mal de tips et on est passé à côté de millions de revenus.
C'est ça, oui.
Ouais, voilà. C'est un peu ce sentiment que j'ai, quoi. La frustration.
Ouais, mais t'as pas
travaillé chez Google. Ah, j'avais la bonne idée.
Ouais, j'ai pas travaillé chez Google, c'est ça.
Ouais. Il y a tout un storytelling que eux ont et ils ont bien mis en avant. Hein.
Et après, je les connaissais peut-être tous les tips. Mais la façon dont c'est présenté, ben c'est bien. Honnêtement, c'est un livre que je recommande.
Je ne dis pas qu'ils n'ont pas cette qualité extrême d'avoir, de savoir storyteller.
J'ai mal vendu le projet, je m'en veux, putain.
Mais non, de toute façon, on ne l'achète pas. Hein, on fait comme d'habitude, tu fais des photocopies, puis tu les envoies.
Oui.
Et l'alcool, là. Voilà. Et puis moi, je préfère l'avoir sous papier, de toute façon. Voilà, ça, bah, oui. Merci beaucoup, Jérôme.
De rien. Vous représenterez un autre livre super intéressant.
Je n'achèterai pas. Je le dis,
2023.
Voilà. Me l'envoie pas pour Noël, sauf donc la version photocopiée. Merci. J'appelle à la barre. Oh merde, je suis bourré. C'est incroyable. C'est quand même pas grand-chose à foutre. Voilà. Ah, mais j'ai perdu. Excusez-moi. J'ai perdu. Alors voilà, notre Père Noël. Anthony Monté, qui va nous parler de jeux. Je peux plus faire de transition, parce que tellement c'est beau à chaque fois quand tu prends la parole. J'ai envie de te laisser la parole tout de suite, en fait.
Hey, merci beaucoup. Merry Christmas, pour commencer. Alors, il y a une news qui est passée il n'y a pas si longtemps, qui est un machin qui est à venir et qui va être grand, énorme, gigantesque, à des proportions que vous ne pouvez pas imaginer, mais quand même à des proportions terrestres, qui est Overture.
Alors, quoi ?
Overture. Alors, Overture, comme ouverture, hein, sauf que vous enlevez le U. Pour ceux qui ne savent pas, le U, c'est la deuxième lettre de ouverture.
Ouais.
Donc, ça fait ouverture en anglais et une ouverture, en fait, an overture. C'est une intro d'opéra. On peut aussi en parler dans des albums ou dans des concerts, mais généralement, c'est pour une opéra. C'est aussi ce qu'on peut appeler un prélude.
Voilà, mais c'est ce qui explique très bien Michel Blanc dans... Viens chez moi, j'ai une copine, je crois que j'ai une ouverture. Sur un malentendu, oui. Ça peut passer.
J'ai quelque chose à faire.
Il y a plusieurs générations dans ce podcast. Hein.
Ouais. Mais si tu ne connais pas Michel Blanc, je ne pourrais plus rien faire pour toi.
Alors, bah laisse-moi dans ma merde, hein, laisse-moi.
Donc vas-y, excuse-moi, vas-y.
Alors,
c'est professionnel.
Overture. Yes. C'est un projet qui est hébergé, enfin, entre guillemets, hébergé par la Linux Foundation. La Linux Foundation, donc à la base, c'est la fondation qui gère le projet Linux en tant que soi, avec tous les contributeurs qu'il y a dedans. Et la Linux Foundation a des fondations filles. Il y en a plein. Il y a celle de Kubernetes, je crois qu'il y a celle de TensorFlow. Et là, en l'occurrence, bah, c'est la fondation Overture. Et donc, dans l'idée, ici, je crois qu'on utilise à peu près tous Google Maps. Si vous n'utilisez pas Maps, vous êtes bizarre, je pense. Vous n'avez pas de smartphone, donc vous êtes bizarre aussi. Il n'y a pas non plus PC.
Il y a OpenStreetMap.
Oui, mais en fait, quand tu sors ton téléphone, il n'y a aucune application qui va te proposer OpenStreetMap. Mais, cependant, pour l'appeler par son super alias OSM, il n'est pas mis de côté. En fait, l'idée d'Overture, c'est pas de refaire un Google Maps. Google Maps, il existe déjà, il y a déjà OpenStreetMap, ça sert à rien de refaire le paquebot. L'idée, c'est plutôt de faire une fusion, un gathering, un collecting, un mashup de tous les data qu'on peut avoir à propos de toutes les data qu'on peut avoir à propos de cartes. Donc, ça peut être des open data, ça peut être OpenStreetMap. Et aussi, ça peut être les gros contributeurs qui font partie de cette fondation. Je nommerai les susdits AWS, Microsoft, Meta et TomTom. Hein, TomTom, les GPS, ouais, les petits boîtiers qui servent à rien aujourd'hui. Hein. Ils ont une application, et d'ailleurs, l'application web, elle est bien si vous voulez mesurer l'essence, tout ça. Bref, et donc, on a ces quatre gros acteurs, je pense qu'il y en a plein d'autres, qui s'intègrent dedans, mais on peut se demander quel est leur intérêt. Bah déjà, pour AWS et Microsoft, je vois complètement le truc. C'est des cloud providers. Ça peut les intéresser de faire partie d'un projet où ils contribuent pour avoir une carte et pouvoir intégrer des services de carte dans leur catalogue de services cloud. Parce que typiquement, quand on veut une carte aujourd'hui, on va voir Google. Sauf que, pour ceux qui ne savent pas, mais quand on veut utiliser Google Maps en tant que développeur, c'est un prix exorbitant. Et les gens ont un petit peu là, ils ont un petit peu amer parce que Google, je crois que c'est il y a 2-3 ans, ils ont fait une augmentation de prix exorbitante sur Google Maps. Disons, je suis Uber. Si Google me dit j'augmente les prix, je suis obligé de suivre. Un peu comme l'électricité pour tout le monde aujourd'hui. Si EDF nous augmente l'électricité, on est obligé de suivre. Et du coup, les alternatives à Google deviennent toujours intéressantes. Et là, on n'est pas tellement sur une alternative à Google Maps, c'est plutôt fournir les datasets, fournir les données. Et ça peut être des open data d'OpenStreetMap, ça peut être des data horizontales, donc de cartes, ça peut être des data verticales pour dire là, il y a un building, il fait 180 mètres, ensuite il a une tour, ensuite il a une antenne, etc. Ça peut être des contributions isolées, ça peut être des contributions d'administration publique. Ça peut être très intéressant qu'une administration nous dise « là, il y a un tuyau de gaz qui passe, hein, pour plein de raisons, etc. » Ça peut être aussi des data qui sont apportées par des IA. On parle beaucoup d'IA qui regardent les data de Hubble et du dernier télescope James Webb, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a aussi plein d'IA qui regardent des photos qui sont prises par les satellites qui regardent la Terre et qui font des conclusions avec, qui vous disent « là, il y a une tête de caribou qui est là depuis 30 ans » ou peu importe. Donc, pour un peu condenser tout ça, ce n'est pas un produit pour l'instant, en tout cas. C'est plutôt un ensemble de services. Et c'est une fondation, donc c'est des gentils contributeurs qui viennent apporter leurs choses, mais ce n'est pas n'importe qui peut contribuer à la chose. Alors, oui.
Ouais, et quand tu dis que c'est pas un produit, tu dis que c'est Overture, c'est une agrégation de data, si j'ai bien compris. Ouais. Comment on les consomme ? Est-ce qu'on peut déjà les consommer ou est-ce que c'est planifié dans
Non, non, c'est planifié en mi-2023.
D'accord.
Et pourquoi je te dis ça ? Je pense que, ils disent que c'est un match-up. Donc globalement, il y aura toutes les datas qui seront au même endroit. Et ça peut être utile pour plein de choses. Je sais pas, je fais du jogging, je veux le calque pour avoir les points de meilleur passage de jogging. J'en sais rien, je veux une carte des pistes cyclables, je veux une carte de ceci, et surtout dans la même idée que Gaïa X peut le faire, disons je suis la ville de Melun, en Seine-et-Marne, donc je peux envoyer mes datas à Overture, et toutes mes datas seront disponibles pour les cartes et pour les gens qui vont les utiliser. Alors qu'aujourd'hui, envoyer tes datas à Google, je ne sais pas si ça se fait. OpenStreetMap, faut utiliser leurs outils à la main, faut faire des trucs, etc. Là, ils veulent vraiment tout compiler à un endroit.
D'accord.
Et je parlais, allez-y, excusez-moi.
Ouais, j'ai des questions, mais quel sera le business model pour Google Maps, par exemple, là-dedans ?
Google Maps, ils ne sont pas là-dedans.
Ils ne sont pas dedans, oui.
Overture n'est pas censé agréger aussi les données de Google Maps ?
A priori, non. Je pense qu'ils vont collaborer au fil du temps, mais Google a ses datas, ils se ferment et ils veulent faire plein de pognon, donc ils n'ont pas de raison d'aller voir Google Maps. Pareillement, j'ai cherché un peu la liste des contributeurs, j'ai pas trouvé Apple dedans. Alors qu'Apple est un très gros consommateur de cartes, ils ont leur propre système, etc. Mais Apple ne fait pas partie de cette initiative. Typiquement, pour participer à ça, si vous voulez pas payer, il faut être soit une association, soit un contributeur reconnu, soit une administration publique. Après, si vous voulez participer comme ça, parce que vous êtes gentil et que vous voulez donner des choses aux gens, il faut quand même que vous payiez 3000 euros par an. Ça va, c'est gentil. Par contre, si vous voulez avoir un pouvoir de décision, là, il faut payer 300 000 euros. C'est une autre somme. un pouvoir de décision sur les working groups. Parce que je le rappelle, on est sur une fondation, donc on est sur une association open source, tout ça, avec des réunions, plein de gens qui papotent et qui décident de ce qu'ils vont faire. Etc. Donc pour être dans ces... pas participer au groupe qui papote, mais avoir un pouvoir de décision dans ceci, il faut payer 300 000 euros. Enfin, 300 000 dollars, excusez-moi. Et si vous voulez vraiment siéger au conseil d'administration de cette superbe association, cette fois-ci, c'est 3 millions d'euros et 20 ingénieurs attribués au projet. Donc c'est beaucoup, ça coûte cher. Mais si on relativise un peu la chose, combien ça coûterait à AWS de faire la même chose tout seul ? Combien ça coûterait à Microsoft de le faire tout seul ? TomTom qui doit recycler tous ses GPS, est-ce qu'ils ont envie de faire ce projet-là tout seul? Est-ce que tu n'as pas envie de te baser sur tout ce qu'ils disent déjà de manière open source et des IA et tout ce qui peut arriver dans le futur qui ne sont pas de ton investissement? Oui, tu as envie. Je pense que TomTom, ils ont 20 ingénieurs qui travaillent. AWS les a, Microsoft les a, Meta les a. Et puis voilà, pour ce qui est de la participation, il y a quand même un détail que j'aimerais rajouter.
Quel est l'intérêt pour de grosses boîtes comme Microsoft, outre le fait de pas être tout seul sur le projet et d'avoir à la fin un produit peut-être final plus...
De ne pas payer de royalties à Google.
Ouais. Est-ce qu'après, par exemple, on peut s'attendre à avoir Amazon qui dise « Ok les gars, comme ils ont déjà fait pour OpenSearch, eh ben super, on a un produit qui marche bien, on va le forker, et puis
en soi, je ne te parle pas de logiciel. Là. Je te parle d'un agrégat de data, et après AWS va faire son service par-dessus, Microsoft va faire son service par-dessus, et on peut même parler plus intéressément, si c'est français, de Meta. Pourquoi Meta va faire ce truc-là? Eux, à la limite, ils s'en fichent un peu, voilà, bon, ils mettent une localisation sur les photos, etc. C'est pas grand-chose, c'est pas un truc de fou, ils n'ont pas besoin d'investir je ne sais combien de millions d'euros pour faire partie de ça. Bah, en réalité, si on prend Meta, Facebook, et qu'on prend le Metaverse, le Metaverse, oui, on peut rajouter des cartes. Si on se pose des questions de réalité augmentée, on peut rajouter des objets sur des cartes qui n'apparaissent que pour ceux qui sont dans cet univers de réalité augmentée, etc. etc. Dans l'idée du Web3, si on doit rentrer dans tout ça, il y a la propriété des choses, il y a vraiment des nouvelles notions, et le positionnement géographique des choses, je pense qu'il est très important. Mmh. Et c'est pas à négliger, et je pense que Meta, c'est pour ça qu'ils sont là.
Leur gros intérêt, c'est la data, c'est l'agrégation de tout ça, et pas forcément le produit logiciel qui va en découler sac quoi.
Ouais, il y a tout à fait ça, il y a la data, et gratuite. Parce que là, on parle de data gratuite. Ouais. On n'est pas en train de te dire, j'ai un service qui est prêt à l'emploi, tu peux l'utiliser pour faire... Non, la data, elle est gratuite, c'est la Linux Foundation qui la host.
Ouais. C'est un catalogue de data produits qui sont normalisés, c'est ça?
Ouais, exact. Oh là là, t'aurais dû faire cette rubrique à ma place.
C'est vachement foutière quand il en parle. Hein. C'est un catalogue de data products, mais ouais, c'est évident. C'est super.
Non, mais c'est hyper intéressant. Moi,
ouais. J'adore. Mais comme je disais, il n'y a pas de produit en soi. C'est pas un produit qu'ils nous vendent. C'est des data et ils nous les vendent pas d'ailleurs.
D'accord. Mais quand même, pour l'utilisateur final, le développeur lambda, il peut espérer pouvoir utiliser des API en 2023, comme tu disais, et du coup s'affranchir du monstre.
Je pense qu'ils vont peut-être nous faire un type proof of concept, un peu comme nous fait en ce moment ChatGPT, tu vois. Ils nous mettent un proof of concept, tout le monde peut l'utiliser, ça fait une hype, ça permet de ramener des levées de fonds monstrueuses. Mais in fine, je pense que ils le disent sur leur site, hein, ils sont pas là pour faire un service Google Maps, ils sont là pour donner des data et propulser les applications qui sont basées sur des data géographiques.
Ok.
Et c'est quoi le type d'interaction prévue? C'est juste de la pure API ou par exemple on pourra stocker ces data sur nos infra
Je sais pas du tout, pour être honnête avec toi. Okay. J'ai lu la fac, etc. Et la matérialisation de la data, ils n'en parlent pas. Je pense pas que ce soit un dump. Je pense qu'ils vont utiliser quelque chose qui est assez déjà connu, mais je peux pas te répondre là-dessus.
Ok. Mais c'est intéressant, ouais.
C'est vrai qu'avec petite anecdote, quand ils ont passé le paiement des API, ils ont multiplié par, je sais pas combien, 10, le prix des API Google Maps, on a vu plein d'applications où avant, tu avais Google Maps, et puis là, tu avais sur l'écran, tu avais appuyé pour activer le Google Maps, parce qu'en fait, pour essayer de tenter de réduire les coûts. Alors, c'est vrai que...
C'est GeoGuessr qui avait souffert avec ça aussi.
Ouais, GrimKeeper aussi, effectivement. Ouais.
Mais c'est hyper intéressant parce que ça permet de relancer la course dans ce domaine où la compétition s'était un peu écrasée parce que Google Maps avait pris beaucoup trop d'avance, quoi. Et c'est pas mal, ouais. Parce que là, on a une hégémonie de Google Maps et c'est vraiment chiant dans ce domaine.
Sachant qu'OpenStreetMap, ils ont quand même prévu les choses. Ils sont là, ils ont débroussaillé le terrain, ils ont récupéré un max de data. Mais il y a vraiment des data spécifiques sur OpenStreetMap et je pense que fait qu'ils aient découplé ça en disant nous on fait pas l'application, ça, et on ramène tous les gens pour que qui que vous soyez, quelle soit votre entreprise, vous pouvez contribuer dessus, c'est très bien. Parce qu'au point de streetmap, je trouve souvent des contributions de gens entre guillemets lambda. Par exemple, je sais pas, une ONG qui va planter des arbres dans je sais pas quel pays, elle va mettre la position de chacun des arbres. Et des fois, il y a des fous aux États-Unis qui vont mettre la position de chacune des boîtes aux lettres de son comté sur OpenStreetMap. Mais c'est des contributions un peu éparses. C'est pas des gros machins. On peut imaginer que Microsoft serait content d'avoir ça dans les mains. Quoi. Mm-hmm. Quoi qu'ils ont fait Open Flight Simulator avec OpenStreetMap. Mais excuse-moi, Jérôme.
Est-ce que ça coupe pas l'herbe sous le pied à Apple qui voulait avoir son vrai business de map pour le futur là. Et apparemment, il voulait tout refaire de A à Z et avoir un gros truc. Ou est-ce qu'il va s'ouvrir ?
Je sais pas tellement, parce que pour moi, ça coupe un peu le pied d'Apple, mais honnêtement, leur partie carte d'Apple, je sais pas si vraiment ils sont indépendants là-dessus. Je sais pas s'ils ont vraiment des trucs, et je pense qu'Apple devrait plus se focus sur l'utilisation des cartes. Typiquement, application GPS, bah, t'as ta carte et tu perfectionnes ton application pour qu'elle fasse du meilleur GPS. Mais t'as pas envie de te faire chier à aller collecter les datas des cartes. Si la mairie de Milan, ou prenons Paris, qui est la ville tout le temps en travaux, peut m'envoyer les travaux, les routes directement à Overture, bah moi j'ai plus à me soucier de cette partie-là et je fais juste du GPS.
Oui, c'est vraiment bien pensé en fait. Hein. C'est stronger together, mais est-ce que ça va suffire ? J'imagine qu'il va y avoir un gros travail d'uniformisation des données, parce que pour que la mairie de Melun n'envoie pas des trucs avec des virgules à place des points et des machins, des trucs. Voilà.
Ouais, mais une petite conduite de gaz dans le format OpenStreetMap, elle arrivera jusqu'à Paris. On sait pas, tu vois.
Et il y a donc aucun acteur européen ?
A priori, non. Peut-être que TomTom est néerlandais, je sais pas. Mais a priori, non.
Ouais. Mais directement, OpenStreetMap, je pense. Ouais.
Le truc que je me dis, moi, la surprise que j'attends, c'est surtout quels seront le prix des services que j'utilise ça. Parce que, si Google s'en met plein les poches, je vois pas pourquoi AWS et Microsoft feraient différemment, en fait.
Alors, troll open, est-ce que Bing Map va contribuer ou troll close?
Ah, c'est vrai qu'ils ont quand même une DB qui est pas à négliger. Quand même. Je pense, après Bing, le problème de Bing, je pense que c'est Bing, c'est tout. Mais soi, les data dedans, ça va, c'est pas mal.
Mais si par exemple, ça peut peut-être ouvrir la contribution à d'autres players comme Yandex, parce que Yandex, ils ont aussi leur système de map, mais centré beaucoup sur le monde russe.
Ah, mais ils sont russes, donc c'est mort.
Bah, ils ont une bonne présence en Ukraine aussi, Yandex, tu vois.
Oui, ils veulent quitter l'Ukraine et même dans les pays de l'Est, je crois qu'ils vont jusqu'à Francfort, quelque chose comme ça. Mmh. Oula, ça fait peur quand je dis des Russes, ils vont jusqu'à Francfort. Je crois qu'ils vont jusqu'à Francfort.
Mais comme essayait de dire Jérôme, ils seront peut-être bientôt plus russes. Donc,
Après, de toute manière, le ticket d'entrée, c'est pas la nationalité, hein, c'est les 3 millions d'euros et les ingénieurs. Hein.
Ouais, c'est ça.
Je pense. Yandex, c'est un mastodonte russe, donc je pense qu'il a aussi les moyens de rentrer dans ça.
Et ce sera le mot de la fin, parce que ton temps est imparti. Et oui, c'est toujours un crèvement de cœur de te couper la parole et de prendre ta place sur le slot 1. Yes. Et ben voilà, il est grand temps de se dire au revoir.
De se coucher.
Et pour moi, d'aller dans un endroit un peu plus chaud, parce que je commence à avoir le bout du nez, je me transforme en lutin. Et je tenais, en cette fin d'année, à remercier mes camarades de jeu pour leur participation. Toujours dans le timing, on n'a jamais raté un début de Tech Jam. On a toujours été à l'heure, ça s'est terminé.
Avec une intro.
Une intro toujours, au fil d'or. Non, mais merci beaucoup. J'espère que ça sonne toujours aussi bien pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent sur YouTube. En tout cas, je pense qu'on prend du plaisir à faire cette Tech Jam. Et,
Oh yeah.
Pardon ? Oh yeah. Oh yeah.
Et donc, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Hein. Et voilà, je fais des bisous à l'ensemble de l'équipe et la famille de l'équipe et des amis.
À la technique, il y a Jean-Claude.
Jean-Claude, à vous tous qui nous écoutez et abusez d'à peu près tout, parce que je pense que c'est, si vous ne le faites pas maintenant, bah, vous ferez peut-être plus jamais, hein, donc autant y aller.
Peut-être pas le chauffage, hein, parce que c'est cher.
Mais... Et voilà, mais c'est pas trop le chauffage quand même. Hein, mais par contre, tout ce qui est vodka, tout ce qui est alcool fort, vous pouvez y aller. C'est comme ça qu'ils font voilà. Un petit peu là-bas.
L'alcool dangereux pour la santé.
Oui, bien sûr, l'alcool est dangereux pour la santé. Merci beaucoup. À l'année prochaine, je crois que c'est ça qu'il faut dire.
À mardi.
Noé Joël et tout ça. Ciao tout le monde.
Noé Joël. Et on va appuyer sur
un. Tchuss.
Tchuss. Ya ya.
Tchuss.
Regardez des films de Michel Blanc aussi.
Bien mort.